Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet évangile que nous avons lu tout à l'heure a trois parties. Donc, une demande de Saint Jean-Baptiste, la réponse de Jésus, et puis les louanges que Jésus fait de Saint Jean-Baptiste. D'abord, cette demande ou cette question de Jean le Baptiste. Jean, dans sa prison, ayant entendu parler des œuvres du Christ, envoya deux de ses disciples lui dire « Êtes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean le Baptiste était en prison pour avoir reproché au roi Hérode le fait d'avoir pris Hérodiade pour sa femme, alors qu'elle était l'épouse légitime de son frère Philippe. Il peut nous arriver, nous aussi, dans nos familles, de devoir refuser de cautionner certaines situations inacceptables. Prenons courage à l'exemple de Saint Jean-Baptiste et demandons-lui la grâce de rester ferme. Que veut dire cette expression « celui qui doit venir » Évidemment, on parlait du Messie, mais c'était une allusion à la prophétie que le vieux patriarche Jacob avait faite en bénissant chacun de ses 12 fils avant de mourir. En bénissant son fils Judas, il a promis que le sceptre ne sera pas enlevé de Judas, c'est-à-dire du peuple juif, jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé, c'est-à-dire le Messie. Et c'était justement le cas à cette époque. Hérode n'était pas juif, mais iduméen, c'est-à-dire un descendant d'Ésaü, et non pas de Jacob. Et donc, on savait que le Messie devait venir sans tarder. Mais pourquoi est-ce que Saint Jean-Baptiste fait poser cette question à Jésus? N'avait-il pas déjà indiqué Jésus comme le Messie en disant « Voici l'agneau de Dieu » Oui, bien sûr, il savait très bien que Jésus était le Messie. Mais il voulait que ses disciples en soient bien convaincus. Il voulait qu'à cette occasion, ils voient les miracles et les merveilles que Jésus accomplissait pour qu'ils croient en lui. En effet, deux chapitres auparavant, dans ce même évangile de Saint Matthieu, on voit que les disciples de Saint Jean étaient jaloux du succès de Jésus. Ils se scandalisaient en voyant que Jésus et ses disciples ne faisaient pas un jeûne rigoureux comme eux. Mais au fond, c'était la jalousie de voir que les foules suivaient Jésus. Et Saint Jean, qui allait bientôt mourir, voulait éclairer ses disciples. Il disait lui-même, « Il faut qu'ils croissent et que moi je diminue. » Mais s'il disait à ses disciples, « Allez à Jésus et laissez-moi », ses disciples auraient pensé qu'il disait cela par humilité et ils se seraient attachés à lui encore plus. Donc il envoie deux de ses disciples, sans doute deux d'entre les plus estimés ou peut-être les moins bien disposés envers Jésus, pour que leur témoignage soit d'autant plus éclatant. La conduite de Saint Jean-Baptiste ne condamne-t-elle pas notre susceptibilité et nos mesquineries quand nous nous fâchons en voyant que d'autres reçoivent plus d'attention que nous? Alors maintenant, la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres sont évangélisés. » Jésus, lui aussi, évidemment, connaissait parfaitement les doutes des disciples de Saint Jean-Baptiste. C'est pourquoi, d'abord, il ne leur répond pas directement en disant « Oui, c'est moi le Messie ». Ils auraient dit, comme les pharisiens, « Vous rendez témoignage de vous-même, donc votre témoignage ne vaut rien. » Il leur répond plutôt en citant deux autres prophéties tirées du prophète Isaïe. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Le boiteux bondira comme un cerf. » Et puis cet autre, « Je suis envoyé porter la bonne nouvelle aux malheureux. » En somme, Jésus leur donne la même réponse qu'il a donnée aux pharisiens en disant « Mes œuvres rendent témoignage de moi. Elles montrent que je suis le Messie. » Nous aussi, que nos œuvres soient la meilleure réponse à ceux qui nous calomnient et disent du mal de nous. Alors Jésus ajoute à la fin « Heureux celui qui ne se scandalisera pas à mon égard. » C'était une manière voilée et douce de prévenir la mauvaise foi des disciples de Saint Jean-Baptiste qui prenaient offense au fait que Jésus a attiré plus de foule que leur maître. Mais il y a aussi un sens spirituel à cet épisode. Saint Jean, qui va mourir dans sa prison et qui envoie ses disciples vers Jésus, est la figure du peuple juif, enfermé dans la lettre de la loi mosaïque, comme le disait Saint Paul. Saint Paul dit aux Galates, « Nous étions enfermés sous la garde de la loi. » La loi mosaïque, avec ses prescriptions innombrables, était une servitude, mais en même temps, elle indiquait Jésus comme le Messie, avant de lui céder la place. Et d'ailleurs, cela est parfaitement illustré dans ce passage même que nous voyons. Dans ce petit passage de 10 versets de la Bible, on rencontre pas moins de 4 prophéties de l'Ancien Testament. Donc la prophétie de Jacob au livre de la Genèse, 2 d'Isaïe, et puis une du prophète Malachie, qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, l'éloge de Saint Jean-Baptiste. La foule ne savait pas pourquoi Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples pour poser cette question. Ils pensaient qu'il avait, ou elles pensaient qu'il avait changé d'avis en doutant maintenant que Jésus était le Messie. Jésus prend sa défense en faisant appel à leur propre témoignage. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Autrement dit, si vous-même vous avez pris la peine d'aller le voir dans le désert, il doit être quelqu'un de sérieux et non pas un roseau agité par le vent ou une girouette qui tourne au gré du vent. Sinon, vous êtes vous-même coupable de légèreté. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme vêtu d'habits somptueux? Mais ceux qui portent des habits somptueux se trouvent dans les maisons des rois. Ici, Jésus révèle le secret de la constance et de la persévérance de Saint Jean le Baptiste. C'était sa vie de pénitence et de mortification. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici que j'envoie mon ange devant vous, pour vous précéder et vous préparer la voie. » Bon, c'est ça la prophétie du prophète Malachie. Saint Jean-Baptiste n'a pas seulement annoncé la venue du Messie, il l'a précédé immédiatement en préparant le terrain. Et puis, il a même indiqué en le montrant du doigt. C'est pourquoi Saint Jean-Baptiste appartient à la fois à l'Ancien Testament et au Nouveau. Et c'est ce qui le rend plus grand que tous les autres prophètes et qui lui mérite le nom d'ange. Et puis il y a aussi un sens spirituel à cette image du roseau. Cette image du roseau est bien choisie pour figurer l'homme inconstant, hésitant, qui manque de persévérance dans ses bonnes résolutions. En effet, le roseau se laisse aller dans toutes les directions selon les caprices du vent. Et de même, l'homme tiède et mondain abandonne ses résolutions en fonction des menaces ou des flatteries du monde. Le roseau pousse dans les endroits marécageux et reste lui-même sec, comme le mondain qui patauge dans les plaisirs du monde qui sont comme de l'eau et qui a une vie spirituelle totalement sèche. Le roseau est creux à l'intérieur, comme le mondain superficiel qui est toujours au courant de l'actualité, mais qui est incapable de la juger en profondeur. Et puis le roseau est sans fruit, comme le mondain qui, à la fin de sa vie, verra toutes ses fausses œuvres partir en poussière, comme la tête du roseau. Donc, chers fidèles, profitons de ce temps de l'Avent pour nous recueillir un peu plus, pour nous préparer à la venue de Jésus à Noël. À l'exemple de Saint Jean-Baptiste, ne soyons pas des roseaux avec une vie spirituelle superficielle, chancelante, inconstante. C'est sûr que par les temps qui courent, il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses qui se passent, on veut se tenir au courant et il le faut. Mais avant de nous informer, il faut surtout nous former. Une bonne formation avec un peu d'information vaut beaucoup plus que beaucoup d'informations, mais sans aucune formation. Quelqu'un qui a lu, par exemple, la conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus est capable de comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec très peu d'informations, alors que quelqu'un qui sait tout ce qui se passe, mais qui n'a pas de formation, sera encore un peu perdu. Donc, ça peut être une bonne idée pendant ce temps de l'Avent, disons d'ici Noël ou d'ici la fin des vacances de Noël, de finir tel livre, un livre de formation ou un livre de spiritualité, quelque chose pour nous former pour les temps difficiles qui arrivent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.